Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Première Loge spéciale séries éliminatoires. Pour l'occasion, ça va être encore moi, Dwali Ibrahim, qui va être à l'animation de l'épisode. Et encore une fois, on est les deux mêmes que du dernier épisode. Je suis accompagné de Vincent Tardif. Vince, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Adou?
Ben oui, ça va bien, merci. Écoute, Vince, finalement, on a eu raison. On a un champion de la Coupe Stanley officiellement. Écoute, on assistait quand même à une finale de la Coupe Stanley, surtout qu'il y a deux équipes qui n'avaient jamais remporté la Coupe Stanley. Et malheureusement, pour l'histoire incroyable que les Panthers de la Floride avaient créée depuis le début des séries éliminatoires, ça s'est arrêté en fin de la Coupe cette année, puisque les Golden Knights de Vegas ont remporté le match numéro 5 et ainsi remporté la finale de la Coupe cette année en 5 matchs et du même coup remporté leur première Coupe cette année de leur histoire après seulement 6 ans d'existence. Écoute, c'est pas compliqué. Au match numéro 5, les Panthers de Floride devaient se débrouiller sans Matthew Tkachuk. On a appris après la rencontre que Matthew Tkachuk a une fracture du sternum. Donc, ça explique pourquoi il était absent. C'était sûr qu'il n'allait pas jouer, surtout avec une fracture du sternum. Et ça a vraiment paru sur la performance générale des Panthers de Floride. Les Golden Knights ont complètement mangé les Panthers. C'est pas compliqué, là. Victoire sans équivoque de 9-3. Les marqueurs pour les Golden Knights, Mark Stone qui a marqué un tour du chapeau, Nicholas Hague qui a marqué aussi un but qui, on va revenir un peu plus tard, Vince, un but un peu controversé. Alec Martinez, alors qu'il y a 9 ans jour pour jour, avait marqué le but permettant aux Kings de Los Angeles de remporter leur deuxième Coupe cette année en 3 ans, en 2014, a également marqué le but vainqueur dans cette rencontre-là. Également, Riley Smith a marqué, Amand Diao a marqué, Ivan Barbashev et également Nicolas Roy, le Québécois, qui a marqué son troisième but des séries. Du côté des Panthers, les marqueurs, c'est Aaron Ekblad, Sam Bennett et également Sam Reinhardt qui a marqué dans l'occasion. Vince, selon toi, qu'est-ce qui expliquait cette débandade-là des Panthers de Floride? Parce que 9-3, c'est quand même une défaite cinglante.
Ouais, je pense que ça vient un peu, je pense, de l'absence de Matthew Tkachuk, qui est un peu le général offensif de l'équipe. Après ça, on a le manque de profondeur là, des Panthers. Si on s'entend, Eric Staal, c'est plus un troisième centre dans la Ligue nationale. Il était même pas troisième centre il y a 2 ans qu'il jouait contre le Canadien. Il a joué le match numéro 5 comme troisième centre. Fait que ça fait quelque chose, je pense, qui est important à noter aussi là-dessus. Tu sais, quand tu perds, c'était 2-0, c'était 3-1, 4-1. Quand tu perds 4-1, un match numéro 5, puis t'es complètement dominé par l'autre équipe, je pense que t'as plus le goût de jouer au hockey. Quand tu sais que c'est pas mal perdu, fait que à 6-1 en fin de deuxième, tu as vraiment le goût de retourner sur la glace pour te faire ramasser. Fait que non, je pense que t'as vu, c'est que les Panthers ont juste abandonné. Je trouve qu'ils ont bien commencé la rencontre. Encore une fois, là, on a vu quand il y a eu 2 jours de congé pour le match numéro 1 en Floride, les Panthers sont rentrés super fort, puis ils ont montré qu'ils étaient prêts à ne pas se faire éliminer en 4, mais c'est ce qu'ils ont fait ce match-là. Sauf que là, Aiden Hill a fait les arrêts clés en début de match. Puis ça a été un revirement qui a coûté un peu. Je pense que le premier but de Markson a vraiment été un killer pour les Panthers. Ça a un peu ça leur a scié les jambes, puis ça a fait en sorte qu'on ait le résultat d'aujourd'hui. Puis en même temps, comme tu dis, le but de Nicolas Sack est un peu controversé avec le fait que la rondelle était un peu immobilisée par Bobrovsky. Elle l'était pas. Puis finalement, est devenu libre, puis c'est Hague qui en a profité pour scorer. Fait que peut-être un but comme ça aussi, ça aide pas. Là. Fait que, je sais pas, j'ai peut-être un manque d'émotion, mais je trouve que le manque de profondeur, honnêtement, c'est plus ce qui leur a coûté. Là. On pourrait dire les blessures aussi, vu que là, on a vu toutes les blessures qui sont sorties pour jouer les Panthers, mais en même temps, c'est sûrement pas sorti pour l'Avalanche, puis ça vient sûrement au même. Là. On a tout le temps des joueurs qui sont très blessés. Le Jack Eichel doit avoir eu mal à l'épaule, puis des trucs comme ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, on parle souvent du créateur des Simpsons, là, Matt Groening, qui est à savoir si ce serait un gars qui vient du futur. Mais Bill Foley, en prédisant que les Golden Knights allaient gagner la Coupe Stanley dans 6 ans, est-ce qu'il ferait partie de la même gang que Matt Groening?
Oh, parce...
ça, je pense que la question mérite de se poser.
Ouais, j'avoue que c'est un bon point. En tout cas, c'est que ça, c'est que c'est un pari réussi pour Foley, c'est un pari réussi pour les Golden Knights quand même. Après 6 ans plus tard, après cette prédiction-là, écoute, c'est vraiment arrivé que les Golden Knights ont peut-être coupé ça. Mais ils ont quand même passé proche la première année aussi. En fait, ils ont fait cette année. En fait, quand même 2 finales de conférence aussi en je crois que c'était 2020. Et
contre les Canadiens.
Ouais, c'est quand, parce qu'on est Canadiens de Montréal aussi. Ils avaient d'autres possibilités aussi de peut-être se rendre jusqu'au bout. Puis malheureusement.
Contre les Sharks, ça se peut-tu? Leur deuxième année, là. Non.
Ils avaient perdu en première ronde, je pense.
Ouais,
ils avaient perdu en première ronde. Ça, c'était la fois où que, ils perdaient 3-0, je crois.
Ouais, puis les.
Puis ils ont remonté parce que.
Ouais.
Parce que
c'est un truc de pénalité, puis là, je me suis
Non, il menait 3-0, c'est vrai. Il menait 3-0 contre les Sharks, puis là, il y a la pénalité de Stachny pour son coup sur Joe Pavelski, puis là, les Sharks, ils ont remonté, puis ils avaient gagné la série grâce à ça. Ouais, ça, je me rappelle, match numéro 5, en plus, c'était assez incroyable comme situation. Mais pour revenir sur le match numéro 5, écoute, tu as amené un super de bons points. Les Panthers avaient super bien commencé la rencontre, puis par la suite, avec un avantage numérique. Revirement de Sam Bennett qui a essayé de transporter la rondelle. Se fait soutirer la rondelle par Mark Stone. Puis Mark Stone marque un avantage numérique sur 2 contre 1. Ça a fait de mal. Ça a parfaitement commencé la rencontre pour les Golden Knights. Puis par la suite, écoute, le but de Nicolas Hay. Pour moi, je pense que le but était bon. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vince, mais pour moi, je pense que le but était bon. Parce que Sergei Bobrovsky, avait l'air d'être au contrôle de son retour, mais quand même, avait pas immobilisé le disque à 100%. Donc, écoute, l'arbitre a bien fait de ne pas siffler parce qu'il a bien vu que la rondelle était encore libre. Puis, par la suite, Nicolas Hague, malgré que finalement le sifflet est arrivé, avait marqué parce que Sergei Bobrovsky finalement n'avait pas la rondelle immobilisée. T'en penses quoi de ça? C'était le but. Est-ce que l'arbitre a décidé de prendre la bonne décision ou ça pouvait aller de l'autre bord?
On dirait que c'est tout le temps. C'est ça compliqué, ce truc-là, parce que tu sais, c'est pas un truc qui est comme by the book. T'sais, c'est pas comme la rondelle qui s'en va chez les spectateurs. C'est pas by the book, ça laisse au jugement de l'arbitre. Fait que son jugement, c'est que Bobrovsky jonglait avec la rondelle. On l'a vu un peu là, quand il a jonglé un peu avec, puis après qu'il a fait l'arrêt, puis ça a continué un peu. Il y a un moment donné où je trouvais que Bobrovsky avait contrôlé la rondelle, puis l'arbitre n'a pas sifflé. Tandis là, ça revient à lui décider là, ce qu'il veut faire dans cette situation-là. Mais tu sais, il y a des moments qui sont... Puis il a sifflé, je pense que la rondelle était pas encore entrée dans le filet. Hein. Ça se peut-tu?
Non, mais c'était en voie de...
Ouais, c'est ça. Fait qu'il a sifflé après ça, c'est ça. Là, c'est un comme... est-ce que son intention... Quand est-ce que son intention de siffler est arrivée? Parce que tu sais, on l'a vu souvent, là, je pense qu'il y a 2-3 ans, ou juste l'année passée, ou même cette année, là, où un arbitre est venu pour siffler... Puis là, comme la rondelle est comme rentrée un peu, mais il a comme dit « Ah, il a bu pas bon parce que je m'en allais siffler, j'ai juste pas eu le temps. » Fait que je trouve que c'est un peu, c'est ça, comme tu dis, c'est controversé, puis je trouve que c'est un peu difficile à savoir s'il a pris la bonne décision ou non. Je connais pas les règlements par cœur, là, mais sur ce que, tu sais, il n'y a pas eu de review ou rien. Fait que j'imagine que s'il n'y a pas eu de review, que Paul Maurice n'a pas rien demandé d'autre, ben je pense que c'est la bonne décision sur la glace.
Ouais, moi, je sais, je pense que c'est ça. Puis, tu sais, moi, je me rappellerai toujours, je crois que c'était en 2007, où que match numéro 6 entre les Penguins et les Predators de Nashville, finalement, ce qui s'était passé à l'époque, c'était que, je ne sais pas si tu te rappelles, Vince, mais Colton Sessions avait marqué un but où on voyait clairement que Matt Murray n'avait pas le contrôle de la rondelle, puis l'arbitre avait sifflé au moment que Colton Sessions avait sauté sur Roto, puis ils avaient refusé le but, puis par la suite, les Penguins ont remporté la Coupe Stanley grâce à ça. C'est un match numéro 6. Puis les Predators devaient absolument gagner cette rencontre-là. Donc, je pense que depuis cette situation-là, je crois qu'il y a eu des changements dans le livre des règlements. Bon, je ne suis pas un expert de ça, mais je sais que maintenant, si par exemple, le gardien de but n'a pas le contrôle de la rondelle, un peu comme c'était le cas en 2007, puis que le joueur aussi a marqué le but, puis que l'arbitre avait sifflé avant, je pense que si le disque était vraiment libre à 100% puis que l'arbitre a juste sifflé pour rien, ben d'habitude, ils accordent le but. Fait que je pense que ça a été le cas maintenant pour les Golden Knights. Mais pour moi, même là, je pense que le mal avait été fait quand même parce que le but de Marston, déjà là, ça fait mal. Plus tu rajoutes ça, écoute, C'était juste. Les Panthers, c'était juste plus dans le coup. Tu parles ton joueur le plus utile, probablement, à Matt Tkachuk. Bon, Matt Tkachuk ou Sergei Bobrovsky, ça dépend pour qui. Mais, c'est vraiment. Ça, les Panthers ont joué leur pire match au pire moment. Puis, malheureusement pour eux, ben, écoute, malgré un parcours absolument incroyable, ben, écoute, les Golden Knights, c'était simplement la meilleure équipe. Puis, Vince, au moins pour toi, tu peux dire que. Techniquement, les Oilers ont perdu contre l'équipe championne à Coupe Stanley, donc ils ne peuvent pas avoir tant de regrets que ça.
Ouais, fait que ça se prend super bien. Moi aussi, je suis pour perdre en série, il faut que je perde contre les champions. Si tu pas contre les champions, ça ne vaut pas la peine. Mais là, pendant que tu parlais, j'ai vu, tu parlais de Matthew Tkachuk qui n'était pas là. Puis j'ai juste regardé le temps de jeu des, de la troisième ligne, de la quatrième ligne des Panthers pour le dernier match. Là. C'était Colin White, Denisenko, puis Zach Dalpé.
Mm-hmm.
Puis je sais bien que ça a fini 9 à 3, puis à un moment donné, l'équipe a arrêté de jouer, là, mais Zach Dalpé a 6 minutes 11 de temps de jeu, mm-hmm. puis il est moins 5.
Ouais, c'est affreux, hein?
C'est dégueulasse. Pauvre gars, je sais pas à quel moment il était sous jeu pour quel but, là, mais c'est tellement triste. Là, tu joues 6 minutes, puis t'es moins 5.
Ben, Maura aussi était. Maura aussi est moins 5. Bon, il a joué 16 minutes, mais c'est moins pire que 6 minutes, là.
Ouais, c'est tellement triste, là. J'ai trouvé, mais c'est ça, parce que j'ai vu Denisenko qui était à moins 3, puis je trouvais ça là parce qu'il y a eu des bonnes chances. T'sais, justement, en début, avant le but de Mark Stone, il y a eu une bonne chance. Son premier chiffre, je pense, dans la finale de la Coupe Stanley, puis il y a eu une belle petite chance. Fait que je trouve ça triste pour lui qu'il ait moins 3.
Même Colin White, si, il a joué 6 minutes 3 secondes, puis moins 4. Ça aussi, c'est pas incroyable. Mais écoute, c'est sûr que quand ton équipe a encore 9 buts...
Ah, il va y avoir des joueurs qui sont...
C'est ça, il va y avoir des joueurs qui vont avoir des différentiels très affreux, comme tu dis. Mais aussi, ça aussi, bon, Vince, bon, quand on parle de Coupe Stanley, on parle aussi de Conn Smythe. Le gagnant du Conn Smythe, c'est Jonathan Marchessault qui devient le 12e Québécois dans l'histoire de l'Institut d'hockey à remporter le trophée Conn Smythe remis au joueur le plus utile.
C'est le deuxième. Deuxième sans être pêché à remporter. C'est qui l'autre?
C'est le meilleur joueur de tous les temps, M. Wayne Gretzky. C'est quand même fou que tu te retrouves dans la même catégorie que Wayne Gretzky. Ça, c'est assez incroyable. Vince, parle-moi de Jonathan Marchessault en général, pas juste dans cette série-là, juste dans les séries éliminatoires. Comment tu l'as trouvé?
Ben, j'aurais aimé ça qu'il reste le Jonathan Marchessault de la série contre les Jets.
Mm-hmm.
Parce qu'il était complètement invisible. Puis il a commencé à pogner en feu contre les Oilers. Fait que s'il pogne pas en feu, est-ce que les Oilers passent? Est-ce que les Oilers gagnent la coupe? Anyway. Mais, fait quoi? Ouais. Fait que tu sais, quand un gars comme ça pogne en feu, là, quand un marqueur naturel comme ça, ça fait quelque chose d'intéressant. Lui, Eichel, puis Barbashev, ça a été, je pense, le meilleur trio des séries. Là. Ivan Barbashev, c'est une très bonne acquisition. Ce gars-là va se faire offrir un luxueux contrat, lucratif contrat, le 1er juillet, avec ses prestations qu'il vient de faire. Fait que non, c'est ça pour Marchessault. C'est un sniper, c'est un marqueur naturel. Il était en mesure de se placer toujours à la bonne place au moment pour recevoir une belle passe de Jack Eichel. Certains diraient que c'est à cause de Jack qui a fait ces points-là, mais je pense que il y a des trucs qui doivent y revenir à lui aussi, là, parce que c'est pas donné à tout le monde de se placer comme faut au bon endroit au bon moment.
Yes.
Puis être capable aussi, avoir un tir, ça s'enseigne pas. Peu importe combien tu te pratiques ou pas, être un marqueur naturel, ça s'enseigne pas. Fait que Joe, c'est ça qui est, fait qu'il sait où se placer.
Ouais.
Donc, c'est sûr que c'est grâce à ça qu'il a réussi à marquer ces buts-là. Puis c'est tout des buts importants. Là, il sort au chapeau contre les Oilers. C'est important. Durant la troisième game, là, il a marqué 2 buts. Contre les Stars, il a quasiment marqué 1 but à tous les matchs. Contre les Panthers aussi. Fait que non, des belles performances. Je suis bien content pour lui. Là, un petit gars pas repêché. Surtout contre son ancienne équipe qui se fait donner pour pratiquement rien. Fait que. Très content. Puis en plus, là, c'est un gars qui a travaillé fort. Là, il joue dans AHL. C'est ça, pas repêché. Fait que non, bien content pour lui. Puis espérant que ça continue.
Ben oui, c'est... Écoute, c'est quel... Quel travail absolument incroyable. Puis écoute, toute une carrière pour l'instant pour Jonathan Marchessault, comme tu as dit, après plusieurs années dans la Ligue américaine. Je crois qu'il a joué sa première saison complète dans l'excellent hockey. Je crois qu'il avait comme 25 ou 26 ans, quelque chose comme ça. T'sais, par la suite, il s'est retrouvé avec les Panthers de Floride. À sa première saison en Floride, il marque 30 buts. Il se fait donner au repêchage d'expansion au Golden Knights par les Panthers de Floride. T'sais, c'est ça qui est quand même fou, c'est que les Panthers de Floride ont donné Riley Smith et Jonathan Marchessault pour garder le fameux Alek Petrovic. Jusqu'à aujourd'hui, là,
C'est-tu Bill Zito?
Non, c'était pas Bill Zito, c'était...
Non, c'était Richie.
Del Talon, c'est ça, Del Talon.
Non, c'était Del Talon.
Décision terrible de Del Talon. D'avoir décidé de protéger Petrovic et de donner non seulement Marchessault, mais aussi Riley Smith. Au final, c'est eux qui ont été des morceaux importants depuis l'existence des Golden Knights. C'est quand même fou parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs des Golden Knights qui ont été là depuis la création de cette équipe-là en 2017. Comme on vient de mentionner, Jonathan Marchessault, Riley Smith, mais il y a également un Shea Theodore, un Brendan McNabb. Il m'en manque un aussi. C'était-tu William... Non, c'est William Carrier, non?
J'ai blackout en deux secondes.
Ben, je parle des joueurs des Golden Knights qui ont été là depuis le début, depuis la création de l'équipe. Fait que là, il y a Marchessault, il y a Riley Smith, il y a Shea Theodore, il y a Brendan McNabb, puis l'autre, c'est...
Il y a Will Carson.
Puis William Carson, puis Carrier, c'est ça. William
les
Carson,
six qui ont, les six qui ont touché à la Coupe Stanley en premier.
Et voilà, c'est exactement ça. C'est eux qui ont été derrière. Puis aussi, encore une fois, moi, je ne suis pas le plus grand fan de ce joueur-là, mais il a quand même été un incroyable. Jack Eichel est excellent dans cette série. Meilleur pointeur des séries avec 26 points en 22 matchs. Encore une fois, écoute, moi, je pense que c'est un échange qui a été gagné pour les deux équipes, là, autant les Golden Knights que les Sabres de Buffalo.
Je pourrais dire pour les trois aussi, là, pour Jack aussi. Pas seulement l'équipe, mais pour Jack Eichel qui a pu avoir la chirurgie qu'il voulait, puis être bien dans son corps. Là.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est gagnant pour tout le monde, carrément.
Ouais, exactement. Puis, écoute aussi, une autre mention en arabe aussi, à deux joueurs. Évidemment, Mark Stone, le capitaine, qui est absolument incroyable, décisif d'un moment important, marqué tout le chapeau lors du match numéro 5. Ça, c'est important. Puis, évidemment, lui, on a failli l'oublier, mais là, on doit en parler. Eden Hill, a remporté 11 de ses 16 matchs en séries éliminatoires, moyenne allouée de 2,17 et un pourcentage d'arrêt de 932 pour le gardien but, qui était techniquement le gardien but numéro 4 dans la hiérarchie des Golden Knights. C'est quand même fou. Non, 3, parce que si on considère que Thompson ou Robin Lehner qui n'a pas joué une rencontre dans l'année, c'est deux gardiens numéro 1. Les deux premiers gardiens des Golden Knights, puis Eden Hill, techniquement, était gardien numéro 3. Et même là, on n'était pas certain. C'était lui ou Jonathan Quick qui allait remplacer Thompson.
Mais Thompson a quand même joué cette année.
Ouais, non, Thompson est excellent sans régulière. Mais on pensait que ça allait être lui, Gazin Moroir en série. Puis il s'est blessé. Puis finalement, c'est Eden Hill et Jonathan Quick qui ont été les deux gardiens de but des Golden Knights.
Et Laurent Brossois non plus.
Laurent Brossois, oui, c'est vrai. Ben, techniquement, c'était le numéro 4. C'est vrai, c'était le numéro 4. Non, j'avais raison. C'est le numéro 4. Laurent Brossois aussi qui était en avant de lui. Écoute, mention en arabe Eden Hill qui a été absolument incroyable. Surtout dans cette finale à Coupe Stanley, il était excellent.
Parlant de Barbashev qui va cash-in, Eden Hill aussi devrait cash-in aussi cet été. Là.
Ouais, c'est
agent libre. Là, d'après moi, pas mal sûr qu'il y a des équipes qui vont y offrir des contrats avec les performances qu'il y a eu pendant les 16 dernières rencontres.
Ah ouais, ça c'est certain. Puis écoute. Mais qu'il faut quand même mentionner, il était absolument incroyable.
Puis il n'est pas si mauvais en saison régulière. J'ai ses stats en ce moment, en 101 rencontres NHL, il y a une moyenne de 910 puis un pourcentage d'arrêt de 2,67. C'est pas un mauvais gardien.
Non, puis il a 27 ans aussi. Tu sais, il est dans la fleur de l'âge. Donc, peut-être qu'il arrive à son apogée. Tu sais, fait que c'est pas un mauvais gardien de but, loin de là. Puis là, il prouve en ce moment qu'il mérite d'être un gardien de but. Au moins gardien de but numéro 2 l'an prochain dans une équipe d'Angleterre d'hockey. Je suis numéro 1, c'est peut-être poussé, mais
c'est un bon numéro 2 à 40 games, comme ce que chaque équipe voudrait en ce moment. Là. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qui peut te donner. Puis, un duo Logan Thompson, Aiden Hill, ce serait très bon, je pense, pour les Golden Knights.
Ouais, c'est sûr. Mais écoute, avec Robin Lehner qui revient, avec Laurent Brossoit.
Mais est-ce qu'ils veulent vraiment Robin Lehner?
Ouais.
C'est ça la question, avec tout un peu le trouble qui a amené à l'équipe. Là.
Ouais, l'histoire de faillite, ouais, j'avoue que c'est pas.
Je sais pas si les Golden Knights vont être fans de le revoir.
Non, c'est sûr que. Écoute, ben, les Golden Knights ont eu plusieurs problèmes dans le passé aussi. Là. Ils ont eu plusieurs
avec les gardiens, qui... ouais.
Ouais, fait que,
surtout les gardiens. La première année, ils n'ont pas fait goaler. C'était combien de. C'était beaucoup de goalers, ça, la première année. Là.
Ouais, c'est sûr.
Aussi. C'est... 5 gardiens. Là.
Ben, c'est sûr que je pense que c'est surtout que Fleury était blessé aussi.
Ouais, ouais. Oscar Dance, Malcolm Subban s'est blessé. Maxime Lagacé.
C'est absolument horrible. Mais écoute, Eden Hill va avoir un bon contrat. Même chose pour Barbashev aussi. Puis. Il faut quand même mentionner, là, bon, les Panthers ont fini de remporter la Coupe cette année, mais c'est toute une histoire, celle des Panthers. Écoute, si c'était une victoire des Penguins de Pittsburgh lors d'un temps des matchs de saison régulière, les Panthers ne faisaient même pas les séries éliminatoires. Et par la suite, commencer les séries éliminatoires, devaient affronter la meilleure équipe de l'histoire d'un séries d'enquête sur régulière, les Bruins de Boston. Perdre 3-1 leur série contre les Bruins de Boston, se retrouve à 5 secondes de perdre la série quand Brandon Marchand se retrouve en échappée. Puis, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, ok, c'est moi. Non, excuse-moi, c'est moi qui. C'est... Oh my god, je m'excuse, guys. j'ai eu un lien qui s'est ouvert. Là. Je m'excuse. J'entendais Jonathan Marchessault parler parce que c'était pas excellent. Mais bref, je continue que je disais, oui. Écoute, tu te retrouves à 5 secondes de perdre la série à Boston alors que Brandon Marchand se trouve en échappée et puis Bobrovsky fait l'arrêt. Par la suite, Linus Hallmark, gardien de but des Blues de Boston, offre un cadeau à Batiketchuk et par la suite, c'est le début d'une belle histoire pour les Panthers de Floride, remontent leur série contre les Bruins, remportent la série en prolongation match numéro 7 au TD Garden à Boston. Par la suite, bat les Maple Leafs de Toronto en 5 matchs, bat les Hurricanes de Caroline qui était la deuxième meilleure équipe en saison régulière en 4 matchs, se retrouve contre les Golden Knights et là, ils se sont fait rattraper par, comme tu l'as mentionné Vince, le manque de profondeur, Batiketchuk qui se blesse. Là, Aaron Ekblad, si, il disait qu'il était blessé, devrait se faire opérer à une épaule. Donc, écoute, c'est quand même tout un parcours incroyable. Tu t'es retrouvé avec Sergei Bobrovsky qui a retrouvé son niveau de jeu de son prime quand il jouait avec les Blue Jackets de Columbus. Écoute, Matthew Tkachuk qui a été excellent dans cette série. Brandon Montour aussi qui, encore une fois, a continué ses bonnes performances séries éliminatoires aussi là, avec 13 points en 21 matchs. Bon, il y en a eu d'autres aussi, là, on peut nommer les Sam Reinhardt, Sam Bennett, et à part de son erreur en match numéro 5, a quand même eu des bonnes séries aussi. C'est une belle équipe, celle des Panthers de Floride, qui était...
C'était supposé être l'année du milieu, hein. C'était supposé un peu d'être, on prend un step back cette année pour revenir l'année prochaine, parce que c'est avec toutes les échanges qu'ils ont faites, ils ont perdu un bon défenseur qu'il y avait l'année passée en Mackenzie Weegar. Puis, leur plan, c'était peut-être on prend un step back, puis on revient l'année prochaine. Mais finalement, ça a été plus un step up qu'un step back. Fait que c'est quand même impressionnant. Là, comme tu dis, surtout avec la chance un peu qui a été de leur côté, là, avec la défaite des Pingouins, puis eux qui vont chercher un point contre les Leafs à Toronto en overtime. Fait que, non, c'est un excellent, c'est un très bon parcours. Puis, c'est une équipe que le monde aime voir jouer depuis 2 ans, puis je pense qu'elle va continuer l'année prochaine.
Ouais, puis, mais écoute, Vince, selon toi, c'est quoi les attentes pour les Panthers en prochain été? Bon, c'était quand même une équipe qui a terminé 8e, mais une équipe qui a fait une finale à la Coupe Stanley. Donc, c'est quoi les attentes? Est-ce que c'est une attente d'une équipe qui doit aspirer à la Coupe Stanley ou une attente d'une équipe qui va faire les séries, mais on ne sait pas trop comme ça a été le cas un peu cette année? Là.
Je pense que c'est vrai de ça. Je pense pas qu'ils doivent viser. Je pense pas que c'est une équipe qui peut se permettre de. Ben, pas qui peut se permettre de viser, mais je pense que. Tu sais, là, je connais pas la situation par cœur là, au niveau de agent libre puis le cap qu'ils vont avoir l'année prochaine. Là. Fait que. Mais tu sais, si je regarde juste leur line-up qu'ils ont présentement, il va falloir que pour être encore contender l'année prochaine, il va falloir que Bobrovsky soit aussi bon qu'il a été pendant les séries. Puis est-ce qu'il peut l'être pendant toutes les saisons? Il va falloir que Alex Lyon soit aussi bon qu'il a été en fin de saison. Fait que. Fait que, je pense que ça devient compliqué. Il reste de perdre un Radko Gudas qui a été très bon pour eux cette année, surtout en série. Fait que, mais c'est sûr que ils ont une masse salariale de 73 millions. Puis ils n'ont pas grand monde à signer cette année. Fait que, c'est sûr qu'ils peuvent se permettre. Ils ont les Brandon Montour sur un deal de 3,5. Gustav Forsling qui est excellent à 2,6. Fait qu'ils vont avoir de l'argent pour aller. Ils risquent d'avoir un peu d'argent pour aller dépenser sur le marché des joueurs autonomes. Fait que ça peut être intéressant de voir les ajouts qu'ils peuvent faire. Mais je pense, ouais, si on garde le même core, je pense qu'on peut attendre un peu une équipe qui se bat pour une place en série. Puis aussi, c'est difficile là, dans l'Atlantique d'essayer de battre les Bruins, les Leafs, le Lightning. T'sais, c'est le gros top 3. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ça va être un peu difficile. Fait que ce que je pense qu'ils peuvent espérer, c'est être la première ou la deuxième équipe repêchée.
Ouais. Ben écoute, moi je pense que c'est quand même une équipe qui peut quand même aspirer aux séries éliminatoires. Puis écoute, on sait jamais avec qu'est-ce qui se passe. Il faudrait vraiment faudrait que tout soit parfait pour que les Panthers puissent répéter le même exploit. Tu retrouves avec Sergei Bobrovsky qui joue du hockey exceptionnel.
Je ne sais pas non plus comment Spencer Knight va revenir.
Ouais, c'est ça.
Comment il va bien. Est-ce qu'il va bien revenir après avoir sorti du programme de la NHL?
Mais fait intéressant aussi, Vince, les Panthers se retrouvent quand même avec 10 millions de dollars d'espace sur la masse salariale. Donc,
ouais, c'est ça. J'ai...
Peut-être qu'ils vont peut-être avoir assez d'argent pour chercher, mettons, un joueur important sur le marché du joueur autonome, qui soit peut-être un défenseur top 4 ou.
Ce serait une bonne chose, parce que on ne sait pas. Mark Stahl, techniquement, leur deuxième paire, c'était Mark Stahl, Brandon Montour. Si Mark Stahl prend sa décision devant sa retraite, puis essaie de s'en aller, ça va leur prendre, comme tu dis, un autre défenseur top 4.
Ouais, puis gaucher idéalement, parce que tu sais, ton top 3 est bien, là. T'as Ekblad, Montour, puis Forsling qui est un bon top 3.
Il n'y a pas grand chose qui pousse en bas non plus.
Non, exactement. Donc, là, t'as Rocco Gudas. T'avais Mark Stahl à 36 ans, donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, mais reste que les Panthers devront faire des changements, c'est sûr. Puis écoute, comme tu l'as mentionné, Vince, au début de saison, ils se sont retrouvés avec beaucoup de changements. T'as perdu ton meilleur pointeur, Jonathan Berdeau, t'as perdu ton deuxième meilleur défenseur en Mackenzie Weegar. Changement d'entraîneur aussi, ils se sont retrouvés de Andrew Brunett à Paul Maurice qui avait quitté les Jets de Winnipeg l'année suivante. Ben, l'année précédente, je veux dire. Donc, c'est une année de transition, disons-le, pour les Panthers de Floride. Puis, Panthers de Floride.
Quelle année de transition?
Ouais, puis pendant longtemps aussi, les Panthers de Floride étaient hors du portrait des séries éliminatoires. Puis, comme j'avais mentionné plus tôt, par un miracle, surtout avec Alex Lyon qui avait joué de l'excellent hockey en fin de saison. Et les Penguins, comme j'ai mentionné, qui ont perdu des matchs qu'ils ne devaient pas perdre. Les Panthers ont gagné la série, mais par la suite, écoute, ça a été une belle histoire. Surtout déjà, si on y pense, hein, déjà juste la victoire contre les Blues à Boston, déjà là ça, c'était parfait pour les Panthers de Floride. Juste ça. Là, par la suite, tu tranches la finale de la Coupe Stanley où tu domines avant les Maple Leafs et les Hurricanes de Caroline. C'est quand même assez extraordinaire comme situation. Puis, hâte de voir ce qui va se passer avec les Panthers de Floride l'année prochaine. Également, hâte de voir ce qui va se passer avec Golden Knights, tu sais, parce que tu es. Les Golden Knights ont quand même une belle équipe. Défensivement, c'est une équipe qui est monstrueuse. C'est incroyable.
Il faut pas qu'ils ont un moyen de rentrer 14 millions, par exemple, eux autres.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que là, ils ne peuvent pas se permettre de dire que Mark Stone va rater toute la saison au complet pour revenir au match numéro 1 en série.
Parce qu'en ce moment, ils sont à 80 millions. Ils ont un Brett Howden à signer qui a eu des excellentes séries. Barbashev ne sera pas de retour. Phil Kessel, c'est pas vraiment. Ouais. Bon, devant le filet, là. Mais tu sais, quand tu parlais de peut-être un retour de Robin Lehner, ça se peut parce que, à moins qu'il l'échange, parce que Lauren Thompson, c'est leur seul gardien qui est signé pour l'année prochaine. Laurent Brossois, c'est agent libre. Aiden Hill, c'est agent libre. Donc, ça va être intéressant aussi de voir ce qu'ils vont faire eux autres aussi, là, comme move, parce qu'il n'y a pas vraiment l'argent disponible là, à Vegas.
Mm-hmm. Ouais, ben écoute, c'est. Ça va être particulier tout ça, là, mais tu sais.
Une entre-saison intéressante.
Ouais, mais tu sais, au moins, dis-toi que les gros morceaux vont être encore là l'an prochain quand même. Là, t'as ton centre numéro 1, t'as centre numéro 2, t'as centre numéro 3. En tout cas, ta ligne de centre est parfaite.
Ça prend de la profondeur pour gagner.
T'es ça, il va y avoir un peu de profondeur, mais t'es ton top 6 est toujours là. Les Stones, les Eichel, Marchessault, Chandler Stevenson qui est sur un contrat fabuleux. Donc, déjà là, ça, c'est assez extraordinaire. Puis, évidemment, ben, tu as Riley Smith encore qui est un bon attaquant top 6. Puis, malheureusement, ils vont peut-être perdre Barbashev, mais ça va être intéressant de voir qui va prendre sa place. Donc, peut-être qu'ils vont chercher un autre joueur. Peut-être que ça va être un autre jeune joueur qui va monter. C'est ça. Puis, ta défense au complet est signée pour au moins l'an prochain. C'est pas pire.
Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de jouer avec leur défensive.
C'est ça.
Qui est bien.
Puis t'es un défensif monstre, comme j'ai mentionné. Déjà, t'as le duo chez Théodore, puis Trangelo. T'avais par la suite McNabb et Martinez. Puis le duo, pour moi, le plus important des Panthers, mais pas des Panthers Flairs, mais des Golden Knights, qui était celui de Nicholas Haig et Zach Whitecloud, qui, pour moi, ont fait un travail phénoménal pendant toutes les séries éliminatoires. Moi, je dirais surtout plus particulièrement dans la série contre les Oilers d'Edmonton. Je trouvais que ce duo-là avait été absolument incroyable, surtout pour contrer McDavid et Draisaitl, parce que c'est vraiment là, je trouvais que c'était la série la plus difficile que les Golden Knights ont eue. La série qui, pour moi, aurait dû se perdre, parce que comme ça, j'aurais eu raison, puis comme ça, Vince aurait été heureux que son équipe se rende jusqu'au bout, mais écoute, ce duo-là, ces deux défenseurs-là étaient absolument phénoménal dans les séries éliminatoires. Puis, écoute, encore une fois, on va finir l'épisode là-dessus, mais félicitations Jonathan Marchessault, quand même, deuxième joueur de l'histoire de l'excellent hockey à gagner Conn Smythe sans être repêché. C'est quand même assez incroyable. Puis il se retrouve dans la même liste que Wayne Gretzky. Donc, écoute, dès que tu te retrouves dans la même liste que Wayne Gretzky, tu peux dire que ta carrière...
Toujours un honneur.
Fait que, écoute, c'est comme ça qu'on va finir l'épisode. Mais sans tardif, merci beaucoup d'être venu, comme d'habitude. Ça a vraiment été le fun.
Ça va être toujours plaisant de parler avec toi.
Yes, sir. Puis, aux gens à la maison, merci beaucoup de nous écouter depuis le début des séries éliminatoires. Puis, on se retrouve très bientôt pour un dernier épisode où on va faire un récapitulatif des séries éliminatoires au complet. On va revenir sur, évidemment, la finale Coupe Stanley, sur le parcours des deux équipes qu'on vient mentionner, les Panthers et les Golden Knights. On va revenir sur nos déceptions et également nos surprises. Ça se peut qu'on parle des Rangers et des Blues de Boston. S'il y a des grandes choses qui arrivent, et peut-être même des Oilers de Edmonton. Donc, écoute, ça va être... Restez à l'affût, cet épisode-là risque d'être très excellent. On a toute l'équipe, je suis Douane Ibrahim et on se revoit très bientôt pour un autre épisode de ton premier match. Salut tout le monde!